table. Resto, radio, loco loco. Erdiwa. Hier, l'autre jour, un jour de mauvais temps, une dame grande et brune, haut sur ses talons, est entrée au loco pour me tendre une petite affichette de la taille d'une carte postale, noire et blanche. Un faire-part de décès. Elle ne m'a pas dit bonjour, je crois. Comment dire bonjour quand on distribue des annonces de décès ? C'est étrange, je ne pouvais pas lui dire merci, oui, avec plaisir, revenez quand vous voulez. Alors j'ai rien dit, j'ai gardé le tract. Mais c'est formidable ! Qu'est-ce qu'on vit vieux dans le Divois ? Même chez le marchand de poison, très sympathique, chez qui je vais trop souvent avec un certain plaisir, on peut en trouver scotché sur le comptoir. Je ne sais pas s'il faut être inscrit quelque part pour bénéficier de ce service funèbre, s'il faut réserver, payer à l'avance. Le jour où ça sera mon tour, le jour où je verrai mon nom inscrit en noir et blanc sur la machine à café du bistrot d'à côté, je ne sais pas. Je serai alors très vieux. Je prendrai un petit pastis, le dernier. J'en parlerai à mon copain Freddy la prochaine fois qu'il passera devant la vitrine. Freddy est hypochondriaque, comme moi. Et quand je le vois, je cours et je sors. Je lui saute dessus et je lui dis « Mon ami, comment tu vas ?» Des fois, je vois bien que ça va pas. Il a le teint pâle, il n'est pas rasé, ses yeux sont rouges. Il a dû trop fumer la veille. Ou trop boire. À sa manière de me dire « ça va », je vois bien que ça ne va pas. Alors il me parle quand même. Il me parle de sa maladie. Il baisse les yeux. C'est un cancer. Il n'en a plus pour très longtemps. C'est ce qu'il dit environ tous les 3 mois. C'est son rythme. Ensemble, on a une sacrée collection d'analyses et de bilans sanguins. De radio, de rendez-vous chez des spécialistes. Quand c'est pas le dos, c'est les poumons. Après, c'est le foie qui déconne. Ou les intestins, c'est selon. C'est comme ça, ça arrive bien à d'autres. Et puis ce mot « cancer », on n'aurait pas pu lui donner un autre nom ? Un nom plus joli, plus coloré, plus poétique ? Je ne sais pas, quelque chose d'encourageant, de beau à porter, de délicat, de tendre. Petite fleur roussie, caillou doré, fruit des îles. Et le cœur, parlons-en. Et s'il lâchait, là, maintenant, brusquement, si c'était ma dernière seconde de vie, peut-être à l'instant où je vous parle. Le cœur, celui qui porte bien son nom, qui est au cœur de tout. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait comme bazar dans nos têtes ? J'ai envie de dire à mon copain, « Mais si, allez, notre cœur, il bat encore, il vibre encore, nous sommes là, bien vivants, avec encore tout plein de choses à faire, à inventer, à transformer. Allez, Freddy, c'est la peur qui nous ronge tous parfois, le regret, la peur d'avoir raté quelque chose, d'être passé à côté, de ne pas avoir su. On aurait voulu être un autre, être mieux, être comme celui qu'on voit là-bas et qui a l'air. On passe peut-être toujours à côté de quelque chose. Tu vois, par exemple, pendant que je te parle, je perds peut-être un client. Mais je rigole, Freddy. Regarde comme c'est bon. Nous sommes là, vivants dans la rue, et on va se payer un bon café au bistrot d'à côté. Tant pis pour le client. Si un jour, la dame, grande et brune, me tendait un flyer noir et blanc avec ton nom dessus, c'est promis. J'en ferai des confettis, tout plein de couleurs, ou alors une cocotte en papier que je mettrai sur le comptoir, ou mieux encore, un petit bateau que je déposerai sur la mer. Tu partiras très vieux et très loin, mon vieux Freddy. Et puis, de toute façon, comme disait Léo Ferré, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. faut laisser faire, et c'est très bien.
Docteur, il me faut un docteur. Docteur, il me faut un docteur. Oh, docteur.
Jacques Higelin, œsophage boogie, cardiaque blues. Ça va mieux en le disant. Et puis, d'aller voir le docteur, c'est vrai que ça fait du bien. On se sent mieux rien qu'en entrant dans son cabinet. Par contre, dans la salle d'attente, c'est l'horreur. Alors aujourd'hui, justement, pour se faire du bien, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table deux femmes qui soignent avec les plantes, deux guérisseuses, deux sorcières, on aurait dit il y a bien longtemps. C'est Nat et Flo. Nat et Flo, ça fait comme une musique. J'ai croisé Nat et Flo. T'as des nouvelles de Nat et Flo? Je vais chez Natéflo. Il y a Natéflo qui vient de manger. » Ça fait comme le chant d'une rivière qui coule. Natéflo. Jamais à sec, jamais à court d'idées, de projets, d'envie et de courage. Natéflo, c'est Nathalie Portaz et Florence Huvette. Toutes les deux sont exploitantes agricoles à Vacher-en-Quin. Elles cultivent, cueillent et transforment des plantes aromatiques et médicinales dans le cadre de la structure agricole « L'âme des simples » qu'elles ont créée en 2008. Nathalie a suivi une formation de 3 ans à l'école des plantes médicinales de Lyon, puis au CFPPA de Die en agriculture biologique, pendant que Florence se formait à la gémothérapie et apprenait dans les bouquins, sur le terrain, accroupie dans les champs de sarriette et de lavande. Bonjour, Natéflo.
Bonjour.
Bonjour.
Nathalie, c'est un joli nom.
Mon guide.
L'âme des simples. C'est quoi ce mystère? C'est quoi le cœur de l'âme des simples? Qu'est-ce qui le fait battre?
J'ai envie de dire, ce qui fait battre le cœur de l'âme des simples, c'est avant tout nos cœurs qui le fait vivre et vibrer. C'est vrai que dans l'âme des simples, on y met toutes nos passions, toutes nos motivations, notre plaisir à être en communion avec la nature, avec les plantes, à les accompagner, à les observer, à les récolter dans de bonnes conditions, à les transformer, et puis tout ce qu'elles vont devenir chez les uns et les autres, par ailleurs. Enfin, voilà, tout ça nous fait vibrer.
Alors vous cultivez ces fleurs et vous créez ce qu'on appelle des hydrolats, des huiles essentielles, des macérations. Vous cueillez, vous cultivez. Raconte-nous un petit peu.
Alors oui, c'est vrai qu'on fait tout ça. Le travail passe à la fois par à démarrer avec beaucoup le travail des terres, la préparation des sols, bien sûr, donc mettre en culture toutes ces plantes médicinales qui avaient été soigneusement choisies, soit dans la nature, en sauvage, soit chez d'autres producteurs, bouturées, puis donc au niveau des transformations. En fait, on a fait le choix d'aller de travailler sur des petites surfaces, de travailler aussi manuellement, donc de travailler en traction animale. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a environ 4 500 m² de plantes en culture, et qui est largement complété par la cueillette sauvage, entre Diwa, Vercors, et puis parfois un petit peu plus loin. Et ça passe en effet par un atelier qui est chez nous de distillation. On distille les plantes à l'ancienne, avec un vieil alambic des années 1900. On fait tout ça à feu nu, ça s'appelle. Donc pour ça, il faut venir nous voir, rencontrer, voir comment se passe cette magie de la distillation. Donc on en produit par ce biais des hydrolats, des huiles essentielles. On travaille aussi beaucoup avec les bourgeons, qui sont assez fascinants, qui sont là juste à l'éclosion printanière. On va les cueillir, les récolter, donc soit sur des arbres, soit sur des jeunes pousses. Beaucoup dans la nature, beaucoup en sauvage. Et quelques-uns aussi dans nos cultures, comme le cassis. Et ces bourgeons, on en fait des préparations aussi, ce qu'on appelle la gémothérapie. Donc ça se fait aussi bien partie de notre activité. Et par ailleurs, on travaille aussi, on fait quelques macérations huileuses. On faisait jusqu'alors quelques plantes sèches et des tisanes, mais on a décidé de laisser cette part-là à d'autres producteurs qui font ça aussi très bien.
Alors ces transformations, ces macérations, ces distillations, elles ont comme objet de soigner, de soulager et peut-être de guérir. Le soin, c'est une transformation, Florence. Vous commencez par soigner et transformer les plantes avant de guérir les gens. Quelle est à vous votre manière de prendre soin ?
Notre manière de prendre soin, c'est déjà essayer de prendre soin de nous. Chose qui est très très compliquée, mais ça fait partie des choses pour nous essentielles. C'est qu'à partir du moment où on a envie d'imaginer que les personnes vont prendre soin d'elles et qu'on peut accompagner ça, on essaye d'être toujours dans cette conscience et cette vigilance de prendre soin de nous, et de prendre soin de la nature aussi et des plantes en général. C'est-à-dire que quand on va cueillir, on cueille déjà de une vraiment pas n'importe comment. On pille pas un site, on respecte le végétal, là où il pousse, quand on arrive aussi quelque part et que ça soit aussi sur nos parcelles, tout est pris en considération. Le lieu de cueillette, évidemment, pour nous, c'est très très important qu'il soit exclu de pollution. En tout cas, au maximum du possible. On est dans une région où on peut quand même relativement s'amuser parce que c'est pas trop pollué. Donc, c'est pas trop trop compliqué quand même pour nous par ici de trouver des endroits bien sauvages et où la pollution n'est pas trop présente. On prend soin aussi, si c'est au niveau culture, bah de tout ce qu'on met en terre. Et on commence aussi par le soin. C'est-à-dire qu'un hydrolat, par exemple, on l'utilise autant pour l'humain, mais on l'utilise aussi pour les plantes et les soigner aussi. Il est arrivé de faire des essais, que ça soit pour les pucerons, que ça soit pour des champignons sur nos thym qui commençaient à tourner de l'œil. Et en faisant comme ça des petites expériences avec les hydrolats, ben on a pu s'apercevoir que ça fonctionnait très bien. De la même manière, chaque année aussi, on fait 4-5 purins de plantes. Le plus connu, évidemment, c'est le purin d'ortie, qu'on utilise aussi en préventif ou en curatif, suivant les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau des cultures. Donc ça, c'est un premier choix de comment envisager le soin au quotidien avec les plantes, avec nous-mêmes. Et pour que les gens, en fait, au niveau de la manière dont on peut être dans le soin et accompagner, il y a vraiment aussi derrière toute une philosophie de démarche de prendre soin de soi. Et dans la manière dont on a choisi les transformations, certes, c'est des plantes qui ont des principes actifs très intéressants, mais on est aussi à faire prendre conscience aux gens que ça passe par leur propre conscience aussi, qui se soignent eux-mêmes. C'est notre manière à nous de voir la globalité du soin.
Oui, vous parlez d'accompagnement, accompagner la guérison, le mieux-être de la personne dans son intégralité. Il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est un peu... Il y a de la magie là-dedans ?
Moi, j'ai pas envie de parler réellement de magie. J'ai plus envie de parler d'alchimie et de dire qu'en fait, pour refaire un lien avec ce qu'évoquait Flo, j'ai envie de dire c'est vraiment se réapproprier les savoirs populaires. Enfin, moi, je pense qu'on est là et on n'invente rien. Enfin, tout est là et tout existe. Donc, beaucoup de choses ont été oubliées. Et c'est comment donner la possibilité aux gens de se réapproprier ces savoirs et comment les utiliser. Et juste comment se faire du bien. Donc, tu nous citais comme sorcière ou guérisseuse. Enfin, je trouve les mots sympas, ils m'amusent beaucoup. Mais quelque part, ils sont presque trop forts. Enfin, moi, aujourd'hui, je me sens pas guérisseuse, je me sens aidante. Je me sens dans du partage, dans de la transmission avant tout. Et c'est par là que ça passe, quoi.
Et c'est à chacun d'être son propre guérisseur, de son propre sorcier.
Exactement, j'ai envie de dire, chacun est son propre sorcier, chacun est son propre guérisseur, quoi. Je pense qu'on n'a rien à attendre des autres. Après, la nature est là, elle nous offre énormément d'atouts et de clés, et à nous de les saisir et d'ouvrir les bonnes portes.
Elles sont bien là pour nous accompagner.
Les clés ?
Les plantes.
Vous accueillez régulièrement aussi des stagiaires là où vous travaillez. Vous avez à cœur de transmettre et toujours de cette manière d'accompagner des jeunes ou des moins jeunes qui veulent découvrir l'agriculture, les transformations de plantes. Flo ?
Oui, on aime beaucoup ça, même si on a eu envie cette année de ralentir un petit peu pour continuer au niveau de l'activité à mieux s'organiser. Parce qu'effectivement, dans la démarche qu'on a eue jusqu'ici de beaucoup, beaucoup accueillir, ça veut dire aussi beaucoup de disponibilité pour pouvoir partager, pour pouvoir transmettre. Parce que de toute façon, ça va dans les deux sens, ça va jamais que dans un sens. Et c'est des choses qu'on aime faire et partager et vivre. Mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a un métier qui demande beaucoup de travail. Et les journées faisant que 24 heures, on s'est dit cette année on calme un petit peu, on voit un peu ce qui se passe, on s'en reconcentre sur des petits détails d'organisation, des choses comme ça. Mais on a vraiment envie de trouver, pourquoi pas aussi d'autres formules, de comment on peut continuer à être dans cette transmission. Et c'est vrai que c'est non seulement la transmission de ce métier, que peut être la cueillette, que peut être la distillation, que peut être la transformation, mais aussi notre vision à nous de comment aborder la globalité du soin avec les plantes, du rapport de l'humain, du rapport aussi vraiment, comme on le disait tout à l'heure, que se soigner, prendre soin de soi, si on a un souci quelconque, c'est d'abord soi-même qu'il faut en prendre conscience. Et tout le reste, que ce soit les plantes ou peu importe, n'importe quelle médecine alternative ou douce, ou on mettra le mot qu'on veut, pour nous c'est vraiment vraiment important d'en prendre conscience et d'être acteur de cette guérison. Et donc c'est une manière qu'on a de voir ça, et on l'intègre dans tout le quotidien, dans n'importe quel acte de la vie. C'est une forme de définition qui peut se mettre partout. Et du coup, on la met de la même manière dans ce désir de transmettre, et qu'on part du principe qu'effectivement, on se donne à nous-mêmes en premier, par désir de donner encore mieux aux autres. Et à partir de nos moments où on a cette capacité de donner, on va pouvoir aussi avoir la liberté de recevoir. Et ça, c'est merveilleux, quoi, de pouvoir donner, de pouvoir recevoir. Et le fait d'être dans la transmission, on peut vraiment passer des agréables moments et des moments très très forts, et on aime ça, ouais, c'est vrai.
Aujourd'hui, on est le 19 juin peut-être, c'est quoi le quotidien en ce moment d'une cultivatrice, d'une cueilleuse de fleurs ou de plantes?
Ce qui berce ou ce qui rythme nos journées en ce moment, ce sont vraiment les roses qui sont présentes, la floraison des roses. Donc c'est vrai qu'on a diverses variétés, de la rose de Damas, de la rose de Provins, de la belle Isis. Donc la matinée démarre avec la cueillette, la récolte de ces roses qu'on va distiller. Et puis on est toujours dans l'observation de comment avancent les plantes, la floraison pour récolte, pour distillation, etc. Et donc on a aussi tout ce qui est entretien des terres. Donc avec ce printemps très pluvieux, il y a quand même pas mal d'adventices, donc il y a pas mal de travail au niveau nettoyage, enfin binage, désherbage, donc on est un peu on est là dedans. Et puis aussi l'accueil qui rythme aussi chaque semaine, les mercredis après-midi où on fait des portes ouvertes à partir de 15h, où les gens ont la possibilité de venir nous faire un petit coucou, de voir, on leur présente l'activité.
On fait une distillation.
On fait une distillation à cette occasion aussi, donc ce qui est assez démonstratif. Puis voilà quoi, la saison, enfin l'irrigation, la surveillance, les récoltes.
Et alors on peut trouver vos produits, vos macérations de bourgeons, les hydrolats, les huiles essentielles, les macérations huileuses, les tisanes sur des marchés, à l'occasion de salons, à la Carline par exemple, et ici aussi au Loco Loco, et sur place. On peut venir vous rencontrer, vous appeler, prendre rendez-vous.
Comme disait Nathalie, tous les mercredis de juin, juillet, août, on ouvre nos portes de 15h à 19h30, 20h, où on essaye au maximum de présenter une distillation. On prend beaucoup de temps, avec grand plaisir, d'expliquer de A à Z c'est quoi le métier, suivant les personnes et le désir des personnes aussi d'être dans la transmission des propriétés de plantes, de choses comme ça. En dehors de ça, il est possible d'accueillir, et on accueille régulièrement aussi des groupes, mais là effectivement c'est sur rendez-vous. En dehors de ce mercredi, c'est possible sur rendez-vous. Mais et puis tu voulais dire quelque chose,
Nat? Oui, je voulais dire, et puis les particuliers, faut pas hésiter à nous appeler et sur demande, s'il y a un besoin d'un produit, soit ils sont en dépôt sur divers lieux et on peut vous aiguiller, soit on vous accueille avec plaisir. On essaye de caler des rendez-vous pour accueillir aussi des particuliers.
Alors vous organisez aussi à Sainte-Croix un marché de producteurs avec l'association Axolot que vous avez créée. C'est la deuxième édition. Ça va avoir lieu quand et qu'est-ce qui va s'y passer? Vous parlez d'agitation festive.
Oui, c'est vraiment ça. c'est l'agitation festive. Ça commence le 11 juillet, qui est donc un jeudi, et tous les jeudis du 11 juillet jusqu'au 15 août, ça commence à 17h jusqu'à 22, 23, minuit, ça dépend de chaque jeudi. Il y a ce marché, essentiellement producteur et aussi un petit peu d'artisanat, avec un choix en fait de rendre ce moment festif, c'est une chose, convivial surtout, amusant aussi, où il y a un vrai choix au démarrage de faire un marché où les personnes qui interviennent, que ça soit des musiciens, que ça soit par exemple des élèves de collège, de la vallée qui font un peu de cirque et qui viennent, que ça soit le monastère qui aussi accueille des stages durant cette saison-là, et chacun ont des activités diverses. Par exemple, je sais qu'il y a un jeudi, je me souviens l'année dernière, il y avait un stage djembé et ils sont venus faire une petite prestation de djembé. On laisse aller à l'improvisation de ceux qui ont envie d'intervenir, que ce soit musique, spectacle. Il y a les ânes ou les chevaux qui font une balade pour les enfants. Il y a aussi Copper de jeux qui est là pour présenter des jeux de plein air adultes et enfants. Donc il y a ce côté-là pour dynamiser, que les gens aient envie de passer un temps. Et envie de passer un temps pour pas juste dire on passe sur le marché, il y a des producteurs, il y a des artisans, on regarde et hop, on s'en va. C'est vraiment dans l'idée que les gens se posent, observent, s'amusent, parlent entre eux et ont envie de rester. Pour aussi parler avec les producteurs et qu'il y ait vraiment un rapprochement entre les gens présents et les producteurs. On est très contente parce qu'effectivement, ça a fonctionné très très bien l'année dernière dans le désir vraiment de faire aussi rencontrer le touriste, puisqu'on est dans une saison évidemment touristique à ce moment-là, de rencontrer les gens de la vallée et de rencontrer les gens du Diois. Et ce cocktail-là, il a vraiment pris l'année dernière et du coup, l'année dernière, on avait 5 jeudis. Cette année, on en met un en plus. Et il y a possibilité aussi de manger sur place. Il y a chaque jeudi un repas de préparé, et soit par l'association, soit par des cuisiniers, entre autres le Loco-Loco, qui sera un jeudi. Et tout ça dans une super ambiance très, très agréable.
Alors pour finir, vous avez choisi d'amener, de nous faire partager une musique que nous allons écouter. Tu peux nous en parler un tout petit peu, Nat ?
Allez, un tout petit peu. La musique choisie, c'est un groupe, un petit duo qu'on aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle Musica Nuda, et qui en plus va être présent au festival de jazz à Cré. Je fais un peu de pub pour eux, ils y seront le 3 août, il me semble. Et Musica Nuda, c'est un duo d'un contrebassiste et d'une chanteuse. Donc un petit duo italien, ils sont super étonnants, donc ils ont quelques compositions, et là il se trouve qu'on a choisi une reprise de leur part qui s'appelle I Will Survive. Donc ce morceau, vous l'avez certainement déjà entendu interprété par Gloria Gaynor, qui la chante depuis 1978, et leur version à eux est complètement originale et elle booste bien, puis voilà, belle énergie à travers ce petit morceau qu'on va vous laisser découvrir du coup.
Merci Nat et Flo.
Merci.
Afraid, I was petrified. kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walk in to find a he with that sad look upon your face. I should have changed your stupid luck. I should have made you leave your key. If I've known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Well, aren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? And I'll survive, I will survive. Always as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live and I got all my love to give. And I'll survive, I will survive.
Je vais maintenant vous confier la recette des gnocchis à la romaine. C'est très facile et très bon. Attention, je vous invite à ne le répéter à personne. Cette recette me vient de mon grand-père paternel. Il s'appelait Jean. C'était un Provençal. Saint-Rémy de Provence. Les alpilles, les pinèdes, les oliviers, les pierres blanches. Il y fait une chaleur à tout fendre. C'est le pays de Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Nostradamus. Des fontaines qui rient et des feuilles qui craquent. Écoutez. Dans une casserole à fond épais, vous allez faire chauffer 1 litre de lait, calmement, en remuant bien. Vous salez un peu, 1 ou 2 pincées de muscade, un peu, mais pas trop. Puis, quand le lait est presque bouillant, qu'il fait une jolie mousse sur le dessus, versez en pluie fine 200 g de semoule fine de blé. Pas comme la pluie d'orage qui s'abat sur la Provence. Sortez aussitôt du feu. Continuez à bien mélanger avec une cuillère de bois. Doucement, mais avec énergie. C'est l'instant de magie. Sans vous précipiter, ajoutez 2 bonnes cuillères à soupe de fromage râpé. Remuez toujours, de l'huile d'olive, un peu, mais pas trop, du poivre, un peu de muscade, si le cœur vous en dit. Versez le tout, cette pâte souple, dans un plat en pyrex, rectangulaire, que vous aurez préalablement huilé. Étalez bien le mélange, qu'il s'allonge de tout son long, qu'il prenne toute la place. Tassez légèrement et laissez refroidir. Pendant ce temps, chantez. Allez vous promener, venez prendre un café au Loco-Loco ou une goulée d'eau à la fontaine. Quand l'ensemble est refroidi, démoulez la préparation que vous allez découper en rectangle d'environ 1 ou 2 cm d'épaisseur et de largeur. Puis, vous disposez tous ces petits rectangles sur une plaque huilée en prenant soin de les espacer comme pour faire une mosaïque romaine, un dallage de glanum, une calade, comme on dit en provençal. Enfin, vous installez votre plaque sous le grill du four préchauffé, à l'endroit où ça cogne le plus fort, pendant une quinzaine de minutes, afin que les gnocchis dorent et craquent à la chaleur. Ça y est, c'est prêt. Mettez-vous à table avec un grand bol d'olives, une salade verte à l'ail, une tomate fraîche. Mon grand-père, Jean, qu'il était bon de venir manger chez toi. Tu prenais tellement soin pour nous régaler. Allez, c'est le cœur qui bat. Et pour finir, en parlant de cœur et d'amour, il y a quelques jours, le duo Flamenco Fusion est venu donner un concert au Loco Loco. C'était bon, c'était vivant. Alors je voudrais vous faire goûter une de leurs musiques. Adios, que les vaya bien. Merci les amis. Merci Louis.
Brindemos por la libertad. ¿Cuál es tu recuerdo?
Por las mañanas, después del café bebido, pasearme por La Habana, mi tabaco encendido. Thank you.
C'était Autour de la table, une émission présentée par Vincent. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.